liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Et bonjour Luc.
Et ben bonjour. Donc revue de presse de l'April, en vrai et en direct. Donc semaine 16, année 2012, pour respecter les traditions. Donc on a un petit sommaire hein, cette semaine, mais avec quelques trucs qui sont pas mal du tout, je trouve.
Voilà, six articles.
Et on commence par indextel.net, comprendre l'open data.
Donc un article d'Alain Bastide. Donc l'open data, c'est ce mouvement qui prend pas mal d'ampleur, qui consiste à partager, en tout cas ouvrir les données publiques ou pas publiques. D'ailleurs, des données d'entreprise, ça marche aussi. Et cet article, donc, à mon sens, le gros intérêt de bien cadrer l'open data du point de vue législatif. Il cite toutes les lois correspondantes, que ce soit au niveau européen ou autre, et donne quelques exemples concrets de ce qui se fait dans l'open data, en citant notamment Rennes, qui fut la première ville à faire de l'open data au niveau du transport notamment. Alors, l'open data, c'est très sympa. Après ça, évidemment, on a une foule de licences et on peut imaginer, enfin, on peut observer en tout cas sur le terrain qu'il y a plein de façons d'en faire qui sont plus ou moins ouvertes. Donc, ça mérite quand même d'examiner ça dans le détail parce que open data, c'est pas un label, c'est pas le label rouge de l'information. Hein, sur Rennes, notamment dans le domaine du transport, c'est un truc avec des API qui sont ouvertes. Donc, c'est un encouragement à venir développer des applications sur leur infrastructure. Les données ne sont pas nécessairement complètes. Je sais notamment que les données théoriques du métro ne sont pas disponibles, par exemple. Donc tout ça reste quand même pas mal sous contrôle. On a des choses qui sont bien plus ouvertes. À Paris notamment, ça s'est fait sur une ouverture beaucoup plus complète.
Voilà, donc il faut nuancer un petit peu l'intertitre des données ouvertes à tous sans restriction. Il faut quand même préciser une licence spécifique, notamment la Public Domain Dedication and License, l'Open Database Commons et Open Database License, et puis la LIP mise en place conçue par le ministère de la Justice, une licence information publique librement.
Et puis voilà, et puis les données qui sont mises à disposition, il faut regarder quelles sont les données qui sont justement mises dans l'open data. On n'y trouvera pas sans doute des données sensibles, hein, comme on évoquait sur une émission précédente avec justement la ville de Montpellier, comme sur les réseaux, parce qu'on peut, avoir des informations qui pourraient être utilisées après à des fins qui ne sont pas tout à fait respectables. Donc à surveiller sur les différents sites et à regarder surtout les différentes licences de réutilisation de ces données.
Voilà, l'article se termine quand même par une petite note. L'exploitation commerciale des données ouvertes publiques représente un marché potentiel de 27 milliards d'euros. Alors, il faut se méfier des chiffres à l'échelle de l'Europe, en tout cas. Si l'open data est avant tout un acte politique pour les États, c'est donc aussi un nouvel Eldorado pour les éditeurs les plus malins.
Voilà, c'est aussi un encouragement assez important à l'innovation, et dans ce qui s'est fait aux États-Unis, c'est l'exemple qui donne envie. Hein. C'est qu'en donnant des possibilités, les gens vont créer, les geeks, les hackers ou des boîtes vont exploiter ces données, créer des applications auxquelles d'autres n'auront pas pensé. Et ça, c'est vachement intéressant. Et du coup, on va reparler innovation après du côté des brevets, puisqu'il en est question, et on voit vraiment deux modèles. Hein.
Alors, un article de lejournal.net, open source, les propositions des candidats se précisent.
Donc, a priori, un article de la rédaction, je ne vois pas de nom d'auteur. C'est un retour sur candidat.fr, hein, c'est l'initiative de l'April qu'on mène depuis plusieurs années, on en a parlé ces dernières semaines. Les réponses ont un peu tardé à venir, donc on les a toutes.
On a remarqué que les réponses sont plus vite arrivées chez les patrons du libre que chez l'April.
Et c'est pas tout à fait ça. Mais ils avaient commencé plus tôt aussi. Ouais. Hein, il faut quand même leur reconnaître ça. C'est qu'ils avaient envoyé leurs questions un peu plus tôt. Et le questionnaire de l'April se distingue par des questions extrêmement précises. Et c'est tout l'intérêt. C'est qu'on va poser des questions sur des articles de loi et des choses comme ça. C'est un peu l'intérêt du truc. Quoi. On a des gens qui sont assez pointus dans le domaine. Et on pose des questions précises. Et donc, bilan là-dessus,
il y a des
réponses assez mitigées. Il y a des réponses très intéressantes et certaines réponses très complètes. Hein, celle d'Eva Joly, des Verts a été vraiment, vraiment très complète. En revanche, du côté du PS, c'était la grosse déception, puisque c'est Fleur Pellerin, donc, qui est conseillère chargée de l'économie numérique de Hollande, qui a répondu. Donc ce n'est pas Hollande qui répond, même si on se doute que ce n'est pas lui qui rédige les trucs derrière. Donc lui, il ne s'engage pas plus que ça. Et il y a des positions très bonnes sur la question des brevets logiciels. En revanche, sur beaucoup d'autres questions très importantes, de liberté publique et autres, les réponses sont extrêmement vagues. Il y a des choses qui ne sont pas abordées du tout. La réponse de 2007 était de bien meilleure qualité.
Et puis il y en a deux qui utilisent des gros mots, c'est le représentant de Nicolas Sarkozy, le gros mot en l'occurrence c'est propriété intellectuelle, et puis François Bayrou.
Et oui, donc Bayrou qui a évolué lui aussi depuis 2007 et pas en bien, donc qui reparle qui parle de propriété intellectuelle.
Qui parle même de préservation de la propriété intellectuelle.
Voilà, tout à fait. Alors il faut quand même admettre qu'en France, on a un code de la propriété intellectuelle, hein, donc le mot existe.
En effet, après ça, les lois aussi.
Et voilà, les lois aussi. Après, effectivement, c'est que derrière, il y a une forme d'idéal de la propriété intellectuelle. Il y avait cette lettre là dont on avait parlé il y a quelques semaines, qui avait été envoyée à Hollande, que je trouve vraiment, vraiment symptomatique. Derrière, il y a des choses qui ne sentent pas très bon, quoi. Et voilà, et Bayrou également se prononce pour les DRM en disant que voilà, c'est nécessaire pour la préservation de la propriété intellectuelle. Donc, revirement pas du tout sympa de sa part. Voilà, donc l'article est pas mal du tout parce qu'il fait un petit tableau synoptique avec des citations. Donc voilà, mais sinon les réponses, vous pouvez les lire dans le détail sur le site de l'April.
Voilà, citons quand même Eva Joly, dont tu disais que ses réponses étaient très précises. On faisait allusion justement au cadre légal qui préexiste. En l'occurrence, je la cite, il existe un cadre légal, la Convention sur le brevet de 1973, l'année du krach pétrolier quand même, c'est pas rien. Les pratiques de l'Office européen des brevets sont illégales. Il n'y a que elle qui le dit. Enfin, si, nous, on le dit depuis des années, mais en tout cas, voilà, on sent la juge derrière tout ça. Après, oui, c'est vrai que voilà, Fleur Pellerin, la brevetabilité du logiciel induirait un cloisonnement de l'innovation qui serait néfaste à l'écosystème numérique vu dans son ensemble. Et puis, oui, Guillaume Lambert, pour Nicolas Sarkozy, la valorisation et la défense propre de... Alors, il manque plein d'articles, comme quoi il parle pas super bien à l'UMP. La valorisation et la défense, la propriété intellectuelle, il manque un 2, ne s'oppose au logiciel libre, il manque un pas. Donc, il manque deux pas. Alors, deux pas quoi? Pas de quoi, en tout cas, pas de bras, pas de chocolat. prochain article après notre indispensable ding.
Un article de l'informaticien Linus Torvalds a reçu le prix Millennium Technology.
Donc un article d'Oriane Vatin. Alors moi je connaissais absolument pas ce prix Millennium Technology, je sais pas si vous...
Non, il a été décerné pour la première fois en 2004. Donc,
voilà, donc c'est assez récent. C'est un truc qui se fait, où ça déjà ?
En Finlande.
En Finlande, hein, puisque c'est le coin dans lequel on fait des prix, ça se voudrait l'équivalent de, en gros, du prix Nobel de technologie. Et donc Linus Torvalds, donc, qui est le papa de Linux, le noyau Linux, obtient ce prix-là. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Ça peut être l'occasion de rappeler ce que c'est que le noyau Linux, parce qu'on pense Linux, le système d'exploitation. Le Linux n'est que le noyau, donc c'est la partie du logiciel, si je ne dis pas de bêtises, qui parle au matériel.
C'est ça. C'est l'élément central, en fait, l'élément central du système d'exploitation dans son intégralité. C'est-à-dire qu'il y a le noyau, il y a les pilotes derrière pour causer au matériel, etc. Et Linus Torvalds, qui était donc étudiant finlandais, avec un très bon professeur, Andrew Tannenbaum, qui est le père fondateur du langage C notamment, avait fait des modules comme ça, avait développé pour un système d'exploitation Unix qui s'appelle Minix, tout petit, minimum Unix, et ça le dérangeait en fait de pas pouvoir rajouter ses contributions au noyau Minix, et donc il a décidé de faire lui-même un propre noyau complément à côté.
Voilà, aujourd'hui ce noyau on le retrouve partout, c'est-à-dire que c'est dans les téléphones Android par exemple, dans toute une série d'équipements de la maison, etc., dans les systèmes d'exploitation GNU Linux, mais également dans des supercalculateurs tels que le CEVA peut en mettre en œuvre, etc. Donc, effectivement, c'est une grande réussite, tant technique qu'au niveau de l'organisation qu'il y a derrière.
Voilà, c'est le 13 juin que Linus Torvalds recevra du président finlandais son prix. On ignore la dotation financière qui va éventuellement avec.
C'est peut-être une statue.
Ce sera peut-être une statue de pingouin.
Lemonde.fr, Twitter propose une forme de brevet défensif.
Donc article de la rédaction également. Alors ça, c'est super intéressant, c'est un peu une première. Donc Twitter, donc le célèbre réseau d'information, en gros, s'engage à faire un accord qu'ils appellent l'IPA, l'Innovators Patent Agreement. Et c'est un accord non pas avec l'extérieur, mais avec ses propres développeurs, et qui leur garantit que les développements faits par les salariés de la boîte serviront, enfin seront brevetés, puisque évidemment en Amérique du Nord, mais uniquement pour se défendre et pas pour aller semer la zone à droite à gauche et mener des opérations offensives.
Voilà, rappelons justement que ce qui ne fonctionne pas manifestement, que ce soit aux États-Unis ou au Japon, dans tous les pays où on a instauré le brevet logiciel, c'est justement que ça ne sert pas justement à protéger ou à permettre l'innovation, mais plutôt à se faire des portefeuilles de brevets. Et puis le jour où un petit jeune a une super bonne idée, pour lui piquer son idée, c'est-à-dire pour s'approprier son brevet, on va lui dire « Ah oui, mais vous violez tel et tel et tel et tel de nos brevets, genre oui, il y a un poil de cils sur ta souris, et ça on l'avait breveté. » Et du coup, en échange, on va faire du cross-patenting, c'est-à-dire que du coup, on ne va pas te poursuivre, tu as le droit d'utiliser nos soi-disant brevets, aussi fumeux soit-il. Et nous, du coup, en échange, on a le droit d'utiliser le tien sans te payer quoi que ce soit, donc ce qui est vraiment une forme de racket. Quoi.
Alors oui, il y a deux grosses dérives, il y a celle-là, et sachant qu'évidemment, les grosses boîtes mettent des milliards sur la table et déposent des brevets partout. Et donc là, on a les guerres en cours, on
les
va en parler.
Les actions de justice qui coûtent très cher et qui ne servent à rien.
Tout à fait. Et rien que le fait de déposer des brevets, c'est des fortunes.
Et dans les contrats de travail, on a des clauses comme ça de propriété intellectuelle qui sont cédées donc, à l'employeur et qui disent que tout le travail qui est fait par le salarié est donc sous la propriété intellectuelle de la boîte. Et donc, il l'utilise soit pour verrouiller le travail ou pour ne pas avoir de concurrence, ou en tout cas pour la gérer à la place du salarié.
Voilà, une démarche qui a quand même pour but justement de restreindre les risques de procédure, Dixit, le procès Samsung, Google.
Voilà, donc il existe des tonnes d'études qui ont été faites en Amérique du Nord, notamment qui montrent que le brevet dans le domaine informatique n'est absolument pas, et même en dehors, n'est absolument pas un facteur d'innovation. On verra tout à l'heure qu'Oracle prétend l'inverse. Ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce truc-là, qui à ma connaissance, c'est la première fois que je vois un truc comme ça, c'est que ça laisserait entendre que les développeurs sont sensibles à cet argument-là et iraient plus volontiers travailler chez Twitter. Et donc, il y a une dimension éthique dans leurs engagements professionnels. Et si ça se confirme et que ça marche, et qu'effectivement Twitter arrive à attirer des développeurs de talent, c'est un précédent vachement intéressant.
Absolument. Puis c'est signe annonciateur justement d'un changement des mentalités, changement qui est encouragé par l'Electronic Frontier Foundation, principale association américaine de défense des libertés numériques, qui dit l'IPA de Twitter offre aux entreprises, aux inventeurs, un moyen de prendre le contrôle de leur propre destin en s'assurant que leurs brevets ne tomberont pas entre de mauvaises mains, une organisation qui milite pour une remise à plat de l'ensemble du droit de la propriété intellectuelle, ce qui ne doit pas être facile aux États-Unis. Prochain petit ding, prochain petit article.
Itexpresso.fr, brevet, Google et Oracle vont régler leurs différends au tribunal.
Article donc de Jacques Franc de Ferrière. Donc c'est le feuilleton, ça dure depuis, je sais pas,
10 mois.
Au bas mot.
20 mois, 20 mois,
que dis-je, 20 mois. Dur.
Voilà, qui fait partie de toutes ces guerres, c'est un petit bout parce qu'il y a d'autres trucs avec Apple, avec Microsoft, un peu partout. Donc directement lié à ces questions de brevets qu'on évoquait tout à l'heure. Donc Oracle, qui a racheté Sun, donc a racheté les technologies Java, en gros attaque Google sur l'utilisation de technologies brevetées au travers de Java dans Android, l'OS donc des téléphones portables et des tablettes.
Ouais, ils ont du boulot parce que Java est utilisé quand même un peu partout, justement dans du logiciel, dans du matériel embarqué, etc. Ça occupe.
Voilà, alors ils ont essayé de s'entendre à l'amiable, etc. Ils n'ont pas réussi. Donc Oracle, donc une très grosse boîte que le public ne connaît pas parce qu'ils sont uniquement sur le marché des professionnels, mais c'est quand même le plus gros marché, beaucoup plus que celui des particuliers.
Oracle qui a racheté Sun, et c'est pour ça qu'à un moment donné, dans OpenOffice, on voyait marqué Oracle.
Voilà. Et donc il demande $1 milliard de dédommagement et à l'inverse, Google dit que c'est pas légitime. et indique que dans ce qui brevette, etc., c'est breveter un langage, ce serait comme breveter la langue anglaise, et en disant que ça peut avoir des conséquences en dehors de Microsoft, puisqu'en fait, Java, il y a plein d'autres acteurs qui l'utilisent, et notamment le logiciel libre.
Voilà, puisque la gourmandise est quand même au rendez-vous, puisqu'Oracle demandait 6 milliards de dollars initialement, ils en demandent plus qu'un. Google considère que ça devrait être inférieur à 100 millions, et donc ils disent que voilà, on peut breveter un logiciel, mais pas le langage avec lequel il a été écrit.
On va breveter les lettres, maintenant.
Voilà, comme breveter les lettres de l'alphabet, une image qu'on a assez souvent utilisée.
Prochain article, Le Cercle, Les Échos, l'Allemagne, les pirates et le monde de demain.
Donc, article de Philippe Payet. Donc, l'article, il est, à mon sens, un peu... Enfin, il a des aspects intéressants, il y a des trucs qui sont un peu des raccourcis. Donc, évidemment, ça parle de l'émergence du parti pirate en Allemagne. Donc, puisque le parti pirate, à l'origine, est suédois, on en trouve des chapitres un peu dans tous les pays. Donc, ça, c'est un aspect très intéressant, c'est ce côté... pan-européen qu'on trouve un petit peu partout, même si je ne suis pas certain qu'ils soient très synchronisés les uns avec les autres, mais ça reste quand même très intéressant. Donc, en Allemagne, 8,9 et 7,4% obtenus lors d'élections régionales à Berlin et dans la Sarre. Donc, c'est important, ça pèse lourd, et forcément, ça fait bouger le paysage politique.
Voilà, les grands partis ont été un peu pris de court par ce mouvement, présent dans 50 pays dans le monde quand même. Et dans l'article, il y a une comparaison qui est faite avec la piraterie d'antan.
Voilà, qui est à mon avis très malheureuse, parce que manifestement l'auteur ne connaît pas trop son sujet. Il nous dépeint une piraterie du XVIIIe siècle avec des pirates qui étaient là, on ne sait pas trop pourquoi ni comment, et qui se seraient mis à attaquer le commerce qui passe. En l'occurrence, le parallèle, il peut être intéressant, parce que la piraterie au XVIIIe siècle, le marin de l'époque, c'était vraiment ce qu'il y avait le plus bas dans la société. C'était quelqu'un qui exerçait un métier très dur, très dangereux, avec un capitaine qui avait le droit de vie et de mort sur lui, qui pouvait le battre, etc., lui faire subir des supplices. Et évidemment, ces gens-là, quand ils sont arrivés dans les Caraïbes, loin du carcan social dans lequel ils vivaient, ils ont commencé à se rebeller. Et à cette époque, on a vu vraiment des choses socialement innovantes, avec des
pensions d'invalidité.
Voilà, des capitaines élus, des choses comme ça. Et vraiment, le début de la démocratie par la pratique. Alors évidemment, beaucoup de brutalité, beaucoup de sang, etc. Mais il y avait ce côté, c'est cet appel de la liberté. Et aujourd'hui, le piratage au XXIe siècle, ce qu'on, nous, on appelle le partage de fichiers, le piratage, c'est quand il y a du bénéfice, on pourrait faire ce petit parallèle. Voilà.
C'est quand on soustrait aussi le piratage. Là, on ne soustrait pas, on multiplie. Comme disait Jérémy Zimmermann, on essaye de nous faire croire que...
Que copier, c'est
la multiplication est une soustraction.
C'est multiplier. Et puis c'est vrai que l'article dit, au XXIe siècle, on est, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, pratiquement tous des pirates. Puisque un article du Berliner Zeitung, qui donnait des exemples, estimait le montant moyen des infractions punissables sur la page Facebook d'un jeune, entre guillemets, à 10 000 euros. Alors bon, c'est encore un chiffre, on va dire, qui est évalué. C'est une évaluation, on va dire. Mais effectivement, c'est aussi révélateur du fait que la démocratie en Allemagne fonctionne peut-être un petit peu mieux qu'en France.
Voilà. En tout cas, ça, c'est le gros intérêt de l'article, le gros mérite de l'article, c'est de dire que le système, il est juste pas jouable, que ça marche pas. Et du coup, on risque à toujours tout verrouiller. On risque de se retrouver dans des situations où ça va être l'arbitraire qui règne, parce que tout le monde sera, nécessairement hors des clous. Et après ça, il suffit que quelqu'un sorte du rang et on aura un outil pour lui taper dessus immédiatement.
C'est vrai que... Désolé. Dernier article, Numérama, Adopi, un rapport évalue très généreusement les finances du partage, justement.
Un article de Guillaume Champeau qui parle justement de l'IDAT, à qui l'Adopi a commandé un rapport. Un rapport qui donne des chiffres assez impressionnants. Et l'article trouve ces chiffres assez peu crédibles.
Effectivement, donc Guillaume Champeau va faire quelques comparaisons. Donc il croise les sources d'information. Et il sort du dossier d'accusation contre Mega Upload. Que l'Empire Mega Upload donc, avait empoché 175 millions de dollars de recettes entre septembre 2005 et 2011. Sachant
soit
que,
sur 6 ans et sur la planète entière.
Voilà, et sur la planète entière, sachant que les utilisateurs français représentent 10%. Et donc, il compare ça aux bénéfices supposés de 2 à 3 millions d'euros par mois pour les gros sites de streaming, selon les auteurs de l'étude. Et il se dit que bon, il y a peut-être un petit problème au niveau des ordres de grandeur.
Voilà, puisque l'IDAT parle de 51 à 72,5 millions d'euros pour la France. Là, forcément, il y a un truc arithmétiquement qui ne semble pas fonctionner. D'elle-même, l'IDAT note dans le cours de son étude que, je cite, les utilisateurs... c'est pas ça que je voulais citer. L'IDAT dit « La méthodologie et les analyses retenues ainsi que les résultats obtenus sont de la seule responsabilité de l'IDAT et n'engagent pas la haute autorité ». Alors là, on ne comprend vraiment plus rien. Pourquoi la haute autorité commande un rapport qui n'engage que celui qui l'écrit ? Enfin, ça sent quand même l'enfumage total.
Alors, j'ai pas encore réussi à trouver le coût du rapport, mais on doit le trouver quand même quelque part, bien sûr.
Il n'a sans doute pas été gratuit, ça me paraît assez évident.
L'article est assez intéressant parce que quand même, bien que beaucoup de sites ont fermé, il propose quand même une belle liste de sites sur lesquels on pouvait récupérer des films, soit en payant, soit en pas payant, etc., que je ne connaissais pas. Donc c'est bien finalement ces rapports pour avoir des listes.
Et sur cette question aussi hein, de sites payants et autres, donc là on a du vrai piratage avec des gens qui font du bénéf là-dessus. On rappelle qu'à l'époque où on avait le peer-to-peer et rien d'autre, eh ben, il n'y avait aucun bénéfice de fait sur les échanges de fichiers et que c'est à force de taper dessus qu'ils ont généré des gens qui maintenant font du bénéfice à leur place. Donc bravo.
Voilà, bravo, c'est lapin crétin, quoi, hein, on va dire ça comme ça. Eh bien voilà, on va se dire à la semaine prochaine pour la revue de presse, Luc.
Oui. Ben oui.
Allez, salut Manu.
Allez, à la semaine prochaine.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'April, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'April, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.